Vous écoutez RTL.
Il est 14h03 sur RTL. Bonjour Sidonie, bonjour Thomas.
Bonjour Christelle.
Bonjour Christelle, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour une nouvelle semaine de curiosité sur RTL. Ça va Sidonie ?
Ça va très bien Thomas, et vous ?
Ben oui, en pleine forme.
Eh ben très bien.
On est prêt à démarrer.
Alors, de l'histoire, de la science, de la nature, des grands destins, des sagas musicales, vous savez, ici, tout nous passionne, et même les objets de notre quotidien. Tout à l'heure, vers 14h30, on va découvrir les ancêtres de notre bonne vieille valise, parce que des coffres en bois de cèdre imputrescibles des Phéniciens qu'il fallait porter à quatre, au petit bagage à roulettes ultra léger d'aujourd'hui, on en a parcouru du chemin.
Mais d'abord, on vous propose un petit voyage dans le temps. Tiens, et si on retournait à l'école d'antan ?
Jusqu'à 15h.
Et plutôt gentil, l'instituteur retraité qui faisait repasser les épreuves du certificat d'études aujourd'hui à Mont-Saint-Pével.
Sidonie Bonnec.
3 heures d'examen entre calcul mental, dictée, histoire et lecture.
Thomas Hugues.
Une bouteille de vin de 0,50 litres vaut 11 francs 30.
Sur RTL.
Quel est le prix du litre ?
Justement, on va nous aussi vous faire jouer, puisqu'on va vous proposer dans un court instant, préparez-vous, prenez de quoi noter, on va vous proposer de repasser le certificat d'études niveau 1930.
Moi, je me régale.
Ce sera pas forcément si facile.
De cette reprise d'Alphaville Forever Young.
C'est bien aussi.
C'est joli.
On reste jeune aussi. En retournant à l'école, on redevient des élèves face à notre professeur Marie-Odile Merniac. Bonjour.
Bonjour.
Heureux de vous retrouver. Vous êtes l'une des sociétaires de la curiosité. Vous êtes historienne, généalogiste. On va commencer, avant de poser les questions du certificat d'études, quelques questions d'histoire pour se replacer dans ce que l'on croit parfois savoir. Rappelez-nous qui a rendu l'école laïque obligatoire en France.
Jules Ferry.
1882.
On est dans un contexte où la République est encore fragile. Il y avait le gouvernement de Thiers à la chute du Second Empire après la guerre franco-prussienne. On met un président de la République provisoire, c'est Mac Mahon, en 1873. Mais on considère que le régime vers lequel la France devrait revenir, son régime politique normal, c'est la monarchie. À ce moment-là. Et Mac Mahon se définit comme un président de la République provisoire.
Et donc, Jules Ferry, finalement, il prend cette décision politique pour contrer la monarchie,
alors,
c'est ça, d'une certaine façon ?
Jules Ferry et son mouvement, finalement, réussissent à imposer une législation qui reconnaît que la République peut devenir un régime légal en France.
Oui.
Et en 1882, Jules Ferry qui considère qu'on ne peut pas créer une République sans avoir des vrais petits républicains auxquels on a inculqué les valeurs de la République, lance cette idée d'une école obligatoire, ce qui n'était jusqu'à présent pas le cas du tout.
Alors, on va vous proposer un petit jeu. On va vous poser des questions niveau certificat d'études 1930. Vous pouvez tous jouer. Vous avez de quoi noter. Notez bien parce qu'il y a des livres à gagner.
Alors, hein. vous faites quoi ? Le calcul, les maths ?
Allez, je commence.
Alors, le calcul, allez, c'est parti.
Allez. Dans une boîte de 1 kg de sucre, les morceaux sont disposés en 3 couches superposées constituées chacune par 4 rangées de 15 morceaux. Pour préparer un gâteau, une cuisinière doit incorporer à la pâte 200 g de sucre. Elle n'a ni sucre en poudre, ni balance. Combien de morceaux de sucre lui faudra-t-il ?
D'accord, bon, il faut faire un peu de multiplication et de division, ça devrait aller. Alors ensuite, question de géographie. Quelle mer ou océan relie le canal de Suez ? Il y a deux mers à trouver.
Un peu d'anatomie ?
Allez.
Donnez le nom des deux os de l'avant-bras.
Je crois que j'en avais qu'un. Tout à l'heure, quand j'ai préparé l'émission, j'ai essayé de répondre.
C'est pour ça que vous avez un bras plus court que l'autre, Thomas.
On vous redonne ces questions sur notre compte Twitter, @lacuriositéRTL. Si vous n'êtes pas abonné, profitez-en. Abonnez-vous sur ce compte. On va vous redonner les questions et on attend vos réponses. Celui ou celle qui donne en premier les 3 bonnes réponses gagne une sélection de livres présentés ces dernières semaines dans notre émission.
On a choisi nos grands coups de cœur, donc vous allez vous régaler. Marie-Odile Merniac, dans cette France de la fin du 19e siècle, est-ce que l'école était payante ?
Alors, Jules Ferry la rend
publique et gratuite.
Avant lui, il y avait des écoles gratuites, mais c'était des écoles religieuses qui considéraient qu'il était de leur devoir de former les enfants pour qu'ils puissent lire notamment la Bible. Donc c'était gratuit.
Mais ça veut dire que tous les enfants n'y allaient pas avant Jules Ferry à l'école.
Et les écoles publiques étaient payantes. L'État payait un tiers du salaire de l'instituteur et les deux tiers restants devaient être payés par la famille.
Alors, avant Jules Ferry, est-ce qu'il y avait plus de garçons qui allaient à l'école que de filles ?
Oui, beaucoup plus de garçons que de filles. Alors déjà, de toute façon, on était très loin d'avoir toute la population d'enfants en âge scolarisable à l'école. On avait, en 1830, 40% des hommes qui savaient écrire et encore moins, des scores plus bas encore pour les femmes.
Et pourquoi on gardait les filles à la maison alors ?
On considérait que c'était moins important pour elles de savoir lire et écrire. Voilà, elles aidaient davantage à la maison, ce qui n'empêchait pas les garçons dans les campagnes aussi d'aider aux travaux des champs.
Et donc à partir de 1882, Jules Ferry, on doit aller à l'école jusqu'à quel âge ? C'est quoi la règle ?
Jusqu'à 13 ans.
Jusqu'à 13 ans ?
De 6 à 13 ans.
Et ça passe pas forcément bien dans cette France qui est quand même très rurale, très agricole ?
Oui, d'abord, l'idée d'école obligatoire, à l'époque, tout le monde en a fait des gorges chaudes. On s'est dit, mais comment est-ce que Jules Ferry va obtenir que les parents envoient leurs enfants à l'école ? Est-ce qu'on va mettre les parents en prison s'ils n'envoient pas leurs enfants ? Donc, il y a eu des débats sans fin à l'Assemblée. Et lui s'est contenté de faire afficher à la porte de chaque mairie les noms des parents qui n'envoyaient pas leurs enfants à l'école pour leur faire honte, en fait, et pour que ça jase dans les villages.
Et ça a marché ?
Globalement, ça a marché, sachant quand même que les parents récupéraient les enfants dès qu'ils avaient besoin d'eux.
À n'importe quel moment de la journée, c'est ça ? Quand même pas.
Pas à n'importe quel moment de la journée, mais l'enfant était absent
pour les travaux des champs,
s'il y avait les travaux des champs, par exemple. Les vendanges, on avait les cahiers de présence, le maître rayait à la limite, mettait absent sur toute la page, parce que, et motif, vendange.
À quoi ressemblaient ces écoles d'antan ? On en croise quelques-unes encore, là, dans des villages, quand on sillonne la France en voiture, quelle matière était enseignée ? Les enfants, est-ce qu'ils portaient vraiment une blouse ou un uniforme ? Réponse à venir sur RTL.
Pourquoi que tu veux l'être institutrice ?
Pour faire chier les mômes.
Thomas Hugues.
Je renfoncerai les compas dans le derrière. Je leur botterai les fesses. Parce que j'aurai des bottes en hiver. Avec de grands éperons pour leur larder la peau du derche.
Sidonie Bonnec.
Tu sais, d'après ce que disent les journaux,
la curiosité est un vilain défaut.
C'est pas du tout ça l'éducation moderne.
Sur RTL.
Extrait de Zazie dans le métro, que c'est savoureux, oh, Louis Malle qui adapte Raymond Queneau. J'ai l'impression d'entendre ma fille.
Oui, ah bah vous nous avez raconté une histoire ce matin qui est très drôle.
Je veux être maman, mais pourquoi ma chérie tu veux être une maman ? Parce que je veux être comme toi, donner des ordres tout le temps.
D'accord. Je crois qu'elle vous a fait passer un petit message.
Un petit message, allez Maline. Allez, la loi sur l'école est examinée en ce moment à l'Assemblée nationale. Ça nous a donné envie de remonter plus d'un siècle en arrière pour replonger dans l'ambiance de l'école de Jules Ferry. On est avec l'historienne et généalogiste Marie-Odile Mergnac qui nous sert de guide. Marie-Odile, d'ailleurs, on vous retrouve régulièrement dans l'émission de Stéphane Bern sur RTL. Mais là, vous êtes avec nous. On est en 1900 dans une petite ville de France. À quoi ressemble l'école ? On pousse la porte.
On a des tables en bois. Mmh. On a des encriers que le maître fait remplir par un élève. On a des plumes. On est quand même plus, si on est en 1900, à l'époque, 40 ans plus tôt, où c'était le maître qui fabriquait l'encre.
Ah oui. L'encre violette ?
L'encre noire au départ et ensuite violette parce que les pigments étaient différents et corrodaient moins les plumes.
Et donc c'est pour ça qu'on portait des blouses, parce que ça salissait l'encre ?
On portait des blouses, alors pas forcément d'uniforme, sauf en ville, dans les écoles un petit peu plus chic, mais sinon c'était globalement, tant qu'on n'était pas dans le secondaire, c'était des blouses de tout type.
Marie-Odile, vous publiez Retracer la carrière d'un instituteur ou d'un professeur aux éditions Archives et Culture. Ça fourmille d'anecdotes et votre passion, votre talent de généalogiste vous a servi évidemment à reconstituer ces histoires. Moi, quand je traverse un village et que je vois école de filles, école de garçons, je me demande toujours, est-ce qu'ils pouvaient au moins se retrouver à la récré ?
Justement, pas du tout. Ils pouvaient parfois se retrouver dans la salle de classe. Ah. C'est-à-dire que si la commune était petite, moins de 500 habitants, on considérait qu'il n'y avait qu'une seule salle de classe ou que, en tout cas, une seule salle de classe par niveau d'élève, par âge.
Okay.
Donc, un instituteur enseignait à ce moment-là aux filles et aux garçons. Mais les cours étaient séparés. On faisait sortir les filles à gauche et les garçons à droite ou l'inverse, mais dans deux cours distinctes. Les jeux n'étaient pas les mêmes.
Alors, depuis 1882 et Jules Ferry, la scolarité était obligatoire jusqu'à 13 ans. Mais que faisaient les enfants qui atteignaient cet âge en cours d'année scolaire ?
Ah, ils partaient le lendemain.
Ça, terminait même pas l'année.
Je ne sais pas si c'était les parents ou eux qui le souhaitaient, mais en tout cas, dans les motifs d'absence, on voyait « vient d'avoir 13 ans ».
Ah oui, donc fallait retourner aider les parents. Est-ce qu'il y avait d'autres motifs d'absence saugrenus dans ce qui pouvait servir de cahier d'absence ?
Ah, on trouve de tout, effectivement. Alors, tous les motifs en zone agricole, tous les motifs liés à la culture.
Les patates, le raisin.
Exactement, tout y passe, les moissons, l'été.
Les vêtements aussi ou les chaussures ?
Pendant les périodes de guerre notamment, j'ai beaucoup trouvé de motifs qui étaient chaussures en réparation.
Parce qu'on n'avait qu'une paire de chaussures.
On n'avait qu'une paire de chaussures. Il fallait attendre pour trouver du cuir pour les chaussures. Et l'enfant, s'il habitait à 3 km de l'école, le trajet, c'était à pied qu'il le faisait. Donc, sans chaussures, pas possible.
Bien sûr. Ça veut dire que pendant la guerre, par exemple, de 14-18, Marie-Odile Merniac, il y avait moins d'enfants dans les écoles en France ? Est-ce qu'il y a des enfants qui ont remplacé aussi, par exemple, des petits garçons qui remplaçaient leur papa parti à la guerre ?
Dès qu'il y avait des gros travaux des champs, oui. Mais c'était presque aussi le ministère de l'instruction publique en 14-18 qui incitait à ça. C'est-à-dire qu'à l'époque des moissons, on n'avait pas de moissonneuse-batteuse, il fallait énormément de bras. On embauchait d'habitude des saisonniers et des ouvriers agricoles. En 14-18, ils étaient tous sur le front. Les Belges qu'on embauchait habituellement, pareil. Et donc, tous les élèves, y compris des lycées parisiens, avaient été réquisitionnés pour apprendre à faucher et partir dans les plaines de la Beauce.
Ils ont dû se faire des ampoules aux mains, d'un seul
avec
coup.
Le train financé par le ministère, des ampoules aux mains sûrement. Et puis, j'ai quelques récits de faucheurs aguerris qui disaient, comme on fauchait en ligne, les uns derrière les autres, qui disaient, les enfants, je les faisais passer devant parce que je n'avais pas envie de prendre un coup de faux dans les talons.
Ah ouais. Marie-Odile Merniac, il y avait des vacances quand dans cette école d'antan ? Parce qu'on aime bien l'école, mais les vacances, c'est chouette aussi.
Oui, alors il y en avait beaucoup moins qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a le record européen. Et d'ailleurs, vendange, c'est vacances, mais le lapsus va être révélateur, vous allez voir. C'est un pape qui avait demandé à ce que les étudiants aient des vacances dans les années 1200 et quelques, et il avait appelé ça des vendanges. Ça voulait dire ce que ça voulait dire, et c'était effectivement à cette époque-là.
L'été, il n'y avait pas 2 mois de vacances pour les enfants, j'imagine.
Non, pas 2 mois de vacances, il y avait 1 mois, et puis rien d'autre. Il y a eu ensuite deux semaines à Pâques. Et on a rajouté ensuite tardivement, je suis en train de chercher dans mes notes si je retrouve les dates exactes.
Les vacances qu'on appelle aujourd'hui vacances de février ou la Toussaint, etc. Ça s'est rajouté beaucoup plus tard.
Voilà, ça s'est rajouté ensuite. Les vacances ont commencé à s'allonger après la Première Guerre mondiale, du 14 juillet jusqu'au 1er octobre.
Alors quand on pense
c'est à ce moment-là qu'on a eu des vacances intermédiaires. Pardon.
Quand on pense, Marie-Odile Merniac, à l'école de la Troisième République, on a tout de suite la discipline en tête. Dans un instant, sur RTL, on va voir si le bonnet d'âne a vraiment existé.
Et alors, si vous ne nous avez pas vus sur Twitter et sur Facebook avec cette vidéo qu'on tourne avec Sidonie à chaque fois avant l'émission, elle a été punie. Hein, elle ne se tenait pas bien, elle volait les affaires de ses petits camarades.
Déjà un bonnet d'âne.
Bonnet d'âne, drôle de bonnet d'âne. Hein.
RTL.
24 adolescents d'aujourd'hui vont remonter le temps jusque dans les années 50. Pendant 4 semaines, ils vont vivre entre les murs d'un pensionnat très strict pour tenter de décrocher le certificat d'études de leurs grands-parents.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues.
Surveillant général.
Vous êtes la honte de cet établissement.
Sidonie Bonnec.
Pour la surveillante des demoiselles.
Je retire l'ensemble des bons points de votre chambrée.
Extrait du pensionnat de Chavagne, cette émission diffusée sur M6 il y a quelques saisons qui justement nous est plongée dans l'école d'antan. On est toujours avec Marie-Odile Merniac, historienne, généalogiste. Alors grâce à vous, on a découvert que Jules Ferry avait instauré l'école laïque obligatoire en 1882. Bon, on s'en souvenait plus ou moins, mais j'avoue, je ne savais pas ou je ne me souvenais pas que c'était notamment pour contrer l'influence de l'Église qui était majoritairement monarchique et donc installer la Troisième République, installer cette idée républicaine dans l'esprit des générations futures. Tiens, on s'imagine en classe avec un instituteur. Tiens, est-ce que c'était forcément un homme ? Est-ce qu'il y avait des institutrices aussi ?
Oui, il y avait des institutrices parce qu'on considérait que les fillettes devaient avoir une enseignante femme et les garçons un enseignant homme. Donc,
Il y avait au moins une parité dans les enseignants
pendant longtemps, non, parce qu'il y avait moins de classes pour les filles. il y avait beaucoup moins d'écoles pour les filles. Alors Jules Ferry, lui, a effectivement, à partir de lui, ça a été, il y a eu autant de filles scolarisées que de garçons, mais ils ont eu du mal à trouver des institutrices, il n'y en avait pas suffisamment. Et donc Jules Ferry, pendant encore 10 ans, a fait appel aux religieuses, parce qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement.
Alors la discipline, est-ce que c'est un fantasme ou une réalité, le fait qu'elle était beaucoup plus rude, peut-être voire même violente dans les écoles? Les instituts, ils étaient parfois violents?
Oui, alors en théorie...
Vous faites rire, vous, Marie-Odile.
Il doit y avoir un brin de sadisme.
Oui, c'est ça. C'est pour désamorcer.
En tout cas, en 1834, le ministère avait déjà dit qu'il était interdit aux instituteurs de toucher les enfants et d'avoir, de les punir physiquement. Ça, personne n'en a tenu compte. 1834, je ne parle pas de 1934, 1834. Et en tout cas, tous ceux qui sont allés à l'école encore dans les années 70 peuvent se souvenir d'oreilles tirées ou de cheveux tirés.
Oui, ou d'être à genoux sur des règles carrées. Moi, j'ai entendu ça dans ma famille.
Oui, ça, c'était pratiqué.
Moi, j'avais un instit qui jetait des gommes, ça va, quand on était distrait au fond de la classe, mais il jetait les règles aussi. La règle en métal, si tu te la prenais sur le crâne, ça faisait mal quand même.
Oui.
Tu réfléchissais, quoi.
Oui.
Et il y avait certains élèves turbulents qu'on enfermait aussi, parfois.
Oui, on les enfermait, et j'ai même trouvé en archive, ça c'était trop drôle, un instituteur qui avait une estrade assez haute, il glissait, enfin trop drôle.
Non, c'est pas drôle, Marie-Odile. Aujourd'hui,
on dirait mauvais traitement.
Voilà, pardon.
Alors, qu'est-ce qu'il faisait, cet instituteur?
Mes enfants vont bien, je vous rassure.
Oui,
et donc, l'instituteur glissait les petits sous son estrade. Donc, dans le noir, sous l'estrade du maître, qui devait pouvoir en plus taper du pied si l'enfant bougeait.
Oui.
Voilà. Et donc, ils étaient punis. Et un soir, j'ai retrouvé ça parce qu'il y a eu quand même un rapport d'inspection, les parents s'étant plaints. Mmh. Il est sorti de l'école en ayant oublié les deux enfants qu'il avait laissés sous l'estrade.
C'est drôle aussi.
Et que les parents cherchaient partout.
Oh non, mais ça me désespère, moi.
Cette histoire-là, oui, mais c'est drôle aussi. Elle est dans Retracer la carrière d'un instituteur ou d'un professeur chez Archives et Culture.
Les bonnets d'âne.
Ah oui,
j'allais demander. Il y en avait quelques-uns, alors c'était un peu compliqué à fabriquer, donc c'était moins courant, mais les instituteurs aimaient bien, si l'enfant était puni, les mettre près de la fenêtre, face vers la rue, particulièrement les jours de marché, quand tout le monde passait.
Eh bien oui, on pouvait voir qui avait le bonnet d'âne.
Qui avait le bonnet d'âne.
Allez, on va parler de meilleurs souvenirs. Vous savez, ces grandes cartes de France que l'on a tous en tête, quand est-ce qu'elles apparaissent et quel rôle Jules Ferry voulait donner à ce type d'enseignement ?
Elles apparaissent en fait avant Jules Ferry, vers le milieu du 19e siècle, on commence à en voir, et elles se multiplient ensuite, parfois servant de support publicitaire, mais bon, elles servaient en même temps de support de cours à toute l'épopée historique ou géographique que Jules Ferry souhaitait mettre en avant, voilà.
C'est renforcer l'identité nationale, le sentiment d'appartenir à la France et pas forcément à sa région et à sa langue d'origine. Il y avait ça aussi dans l'idée de Jules Ferry.
Ah, il fallait faire une France unique. Ça, oui. C'était très important. Quand il est arrivé, la plupart des enfants ne parlaient pas forcément le français à la maison. Mmh. On avait sur 4 millions d'enfants, il y en avait 1,5 million qui pouvaient comprendre le français mais qui ne le parlaient pas chez eux.
Donc pas de langue régionale à l'école,
lui
c'était interdit.
Lui a banni les langues régionales.
Et les langues étrangères ?
Les langues étrangères, c'était pour le secondaire. On ne se préoccupait pas encore du tout d'apprendre quoi que ce soit. On essayait déjà d'inculquer le français et pas les langues étrangères à l'école primaire.
On a encore plein de questions à poser. Par exemple, les fournitures scolaires. Qui les payait, ce fameux certificat d'études? Mais qui l'a inventé? Les réponses juste après la pause sur RTL.
Monsieur Pépineau, vous êtes un cancre.
RTL.
Dernière question. Comment est mort le maréchal Ney?
La curiosité est un vilain défaut.
À la chasse ?
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Zéro.
Vous me copierez 100 fois pour demain, le maréchal Ney est mort fusillé. Sortez.
Les choristes, très bon souvenir au cinéma, film de Christophe Baratier avec François Berléand
qui fait
dans le rôle de la cible. Je me souviens plus de son prénom. Voilà, ça fait longtemps que je suis à l'école.
Vous auriez pu dire Patrick Berléand, on aurait tous compris. Bah, hein.
Oui, c'est dans un autre. Bon, voilà.
L'acteur ou presque.
On continue de découvrir l'école d'antan avec notre invitée, l'historienne, la généalogiste Marie-Odile Merniac. Est-ce qu'il y avait des cantines? Comment ça se passait pour le déjeuner dans ces écoles d'il y a un siècle?
Il y avait des cantines qui étaient souvent simplement des salles où l'on pouvait se mettre un petit peu à part pour déjeuner et encore seulement
dans arrivait avec
on
son,
arrivait avec son propre repas ouais. de la maison avec un petit panier qui contenait plus ou moins quelque chose.
Et c'est vrai qu'on servait du vin aux élèves dans ces écoles.
C'est le moment où Marie-Odile va rire.
Voilà, voilà, oui. On a servi du vin, effectivement, jusqu'en 1966 dans les cantines et les enfants en apportaient le matin. Alors, quand c'est du vin ? Déjà, ça n'est pas du vin pur, c'était du vin mélangé d'eau, toujours.
Ah oui, quand même. Quand
et
même,
ouais. Les piquettes d'autrefois, elles avaient plutôt, en termes de degrés, les vins avaient plutôt à peu près 7-8 degrés. Pas du tout les 10, 12, 14 qu'on a aujourd'hui. Maintenant aujourd'hui. Donc c'était moins fort, mais on a la blague. Les instituteurs essayaient de lutter contre l'alcoolisme et une blague, ils demandent à un élève, voilà, 2 litres à 1 franc 14, le litre, ça fait combien ? Et l'enfant répond 2 jours et demi, madame.
C'est très bon.
Donc voilà, 1966, c'est une bonne date pour
très
que
année,
les enfants voilà, retrouvent.
1966, très belle année.
Dans cette école d'antan, est-ce qu'on venait, Marie-Odile Merniac, avec son propre matériel, ses cahiers, ses crayons, ou est-ce qu'ils étaient fournis par l'école ?
Ils étaient fournis par l'école. Alors évidemment, le soir, comme il y avait les devoirs à la maison, on les emportait, on les ramenait le lendemain matin. Mais les cahiers étaient souvent imprimés au nom de l'instituteur et de l'institutrice.
Ah oui, ils étaient vraiment marqués. Voilà, est-ce qu'il y avait un cahier de brouillon, un cahier principal ? On a connu ça, nous, petits, ça
oui,
existait déjà ?
Oui, cahier de brouillon et effectivement le cahier dans lequel on recopiait au propre ce qu'on avait préparé sur le cahier de brouillon au départ.
Et on écrivait avec une plume. Quand vous dites une plume, c'est pas une plume d'oie. C'était déjà une plume en acier ?
Oui, une plume en acier déjà depuis le Second Empire. Avant, effectivement, on a connu la plume d'oie.
Et alors, tous ces efforts-là que faisaient les élèves dans l'école d'antan, ils étaient sanctionnés par le fameux certificat d'études. Alors, ça date de quand, ça ? Qui a inventé le premier certificat d'études ?
1874. Alors, le ministre qui l'a créé, je ne me souviens plus, mais il a, en le créant, il a dit que pour lui, le certificat d'études, c'était l'acte de baptême d'un être intelligent. Jolie formule.
Ça se passait à 13 ans, à la fin du cursus. Et si un élève avait son certificat d'études, parce qu'il était brillant, à 11 ans, qu'est-ce qui lui arrivait ? Il pouvait quitter l'école ou alors il devait quand même rester jusqu'à
c'était
la fin ?
C'était obligatoire jusqu'à 13 ans.
Ouais.
Donc
L'école de cette époque, on a souvent ce débat sur l'ascenseur social. Est-ce que l'école d'aujourd'hui est encore un ascenseur social ? Ça l'était. C'est-à-dire que ça a permis à des générations de sortir un peu de leur milieu d'origine.
Oui, oui. L'instituteur avait presque une mission de repérage et d'aide aux enfants qui lui semblaient brillants. Donc, un petit peu comme dans une équipe de sport, on essaie de voir celui qui est particulièrement doué pour ça ou pour ça ou pour ça. Voilà, l'instituteur devait repérer ce qui était bon pour les études et essayer de les pousser ensuite vers des études secondaires, même si dans les campagnes ou dans les quartiers pauvres des villes, les parents n'auraient pas eu l'idée de demander à leurs enfants de poursuivre leurs études. Donc l'instituteur a été moteur pour ça. Albert Camus, par exemple, n'aurait jamais fait d'études et ne serait jamais devenu le grand écrivain qu'on connaît s'il n'avait pas été poussé par son instituteur.
C'est l'heure des corrigés.
Ah, les corrigés, alors on y va. Donc la question, il y avait une question de calcul, parce qu'on ne disait pas mathématiques, on disait calcul. Une question de calcul. Allez, rapido.
Dans une boîte de 1 kg de sucre, les morceaux sont disposés en 3 couches superposées, constituées chacune par 4 rangées de 15 morceaux. Pour préparer un gâteau, une cuisinière doit incorporer à la pâte 200 g de sucre. Elle n'a ni sucre en poudre ni balance. Combien de morceaux de sucre lui faudra-t-il ?
Vous avez essayé de faire un accent genre 1920, c'est ça ?
Ouais, c'est pas mal,
ouais. Alors la réponse.
Notre réalisateur France de Touchard est par terre.
La réponse, c'est donc 36. Bravo, première
réponse. Vas-y, allez-y.
Quelle mer ou océan relie le canal de Suez ?
Ah, vous auriez pu faire les infos à l'époque. Ouais. Mer Méditerranée et mer Rouge.
Bravo, deuxième point. Et puis ?
Donnez le nom des deux os de l'avant-bras. De
Cubitus et Radius.
Et bon. Le gagnant est.
Roulement de tambour, Hervé Azanco qui a répondu sur Twitter. Il est de Levallois-Perret. Bravo Hervé, on vous envoie trois livres.
Allez,
qui ont peut-être même plus. On va
Paul Bocuse de Robert Belleret, le Spikrine d'Olivier Mine et le Tissemelier de François-Xavier Delmas et Mathias Minet. Bravo à vous.
Bravo et merci à tous d'avoir participé sur Twitter, sur le compte @lacuriositéRTL.
Et dans un instant sur RTL, on va raconter l'histoire des bagages en remontant jusqu'aux Phéniciens. Et puis on va donc terminer cette immersion dans l'école d'antan en ouvrant le bagage de l'écolier à vos cartables.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.
Et toujours avec nous l'historienne Marie-Odile Merniak qui nous ouvre les portes de l'école d'antan, celle créée par Jules Ferry en 1882 et qui est restée le modèle français jusqu'à quand, tiens, d'ailleurs, cette école-là. Moi, j'ai envie, intuitivement, je vais dire jusqu'aux années 70 parce que mai 68 a tout changé. Est-ce que je suis dans le juste?
Oui, c'est un peu ça. Effectivement, on est passé ensuite du calcul aux mathématiques. Oui. Donc, on a des systèmes d'ensemble, déjà même en école primaire. Et puis surtout, il y a eu, à partir de cette époque-là, un basculement complet de la scolarité des enfants qui ne s'est plus arrêtée seulement à 13 ans. Mais ils ont continué vers le secondaire. Et l'école primaire, qui était le bagage que tout le monde, qui allait servir pour toute la vie, est devenue simplement une étape dans un cursus beaucoup plus long.
Et ce bagage justement concret qu'on avait pour porter ses affaires, le cartable, il ressemblait à quoi dans cette école d'antan, Marie-Odile Merniak?
Il était souvent bricolé parce qu'il était artisanal. On ne l'achetait pas, on le fabriquait souvent à la maison.
Il était en peau ou en tissu?
Il pouvait être en tissu, il pouvait être aussi en cuir, bien sûr. On l'avait... Pendant les périodes de restriction de la Seconde Guerre mondiale, on avait plutôt des cartables qui étaient en carton bouilli. Alors ça paraît fragile comme ça, mais en fait c'était assez solide. Ah oui, carton bouilli, vernis, ça on le cirait comme des chaussures, ça tenait.
Et puis alors dans certains villages de montagne, il y avait un cartable double usage.
Alors ça j'aime beaucoup. Effectivement, dans les Alpes, souvent les parents fabriquaient le cartable un petit peu comme une petite mallette en bois. Ouais. Donc ça protégeait bien les cahiers, mais les enfants pouvaient s'en servir de luge l'hiver.
Génial.
Pour repartir de l'école ou y arriver, selon le sens de la pente.
Merci beaucoup, Marie-Odile Merniak, pour ces belles histoires. Je rappelle que vous êtes historienne et généalogiste. Et justement, tiens, vous organisez le grand salon de la généalogie les 14, 15 et 16 mars. C'est à Paris, c'est à la mairie du 15e arrondissement. Et ça, c'est une passion française, la généalogie.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.